Les Rambeaux, cinquième partie. Clérambeau n'était pas le seul à éprouver le bienfait de l'énergie de Froment. Presque à chaque visite, il rencontrait au chevet du jeune homme quelque ami qui venait, sans se l'avouer peut-être, autant pour chercher du réconfort que pour en apporter. Deux ou trois jeunes gens, de l'âge de Froment. Les autres, hommes âgés, ayant dépassé la cinquantaine, vieux amis de la famille ou qui connaissaient Froment déjà avant la guerre. L'un d'eux, vieil helléniste au sourire fin et distrait, avait été son professeur. Il y avait aussi là un sculpteur aux cheveux gris, masque huileuse et creusé de sillons tragiques. Un gentilhomme campagnard qui avait le poil ras, le teint rouge et la tête carrée d'un rude paysan. Et un médecin à barbe blanche, figure fatiguée, empreinte de douceur, ou le regard frappé par l'expression complexe des deux yeux. L'un qui observait bien, avec une lueur de scepticisme, et l'autre mélancolique, qui paraissait rêver. Ces hommes qui se trouvaient quelquefois réunis chez le malade ne se ressemblaient guère. On eût noté dans le petit groupe toutes les nuances de pensée, du catholique au libertaire et même au bolcheviste, comme prétendait l'être un des jeunes camarades de Froment. On eût retrouvé en eux les empreintes des ancêtres intellectuels les plus variés. De Lucien l'Héronique dans Le Vieil Helléniste, des chroniqueurs François de la collection Michaud chez le comte de Coulanges, qui, le soir, dans son domaine, se délassait de l'élevage et des engrais chimiques en savourant la langue de drap d'or de Froissart et celle, buissonneuse et juteuse, de ce fripon de Gondy. Le sculpteur ravinait son front à découvrir une métaphysique dans Beethoven et Rodin. Et le docteur Verrier, qui avait pour le paradis des religions le sourire désabusé de l'homme de science, transposé dans le royaume d'hypothèses de la biologie ou dans les équations fulgurantes de la physique et de la chimie moderne, le coin de merveilleux dont il avait besoin. Bien qu'il participât douloureusement aux épreuves du jour, l'air de guerre s'effaçait à ses yeux, déjà dans le lointain, avec sa gloire gluante, devant les découvertes héroïques de la pensée. Qu'un nouveau Newton, le libre allemand Einstein, accomplissait parmi l'égarement humain. Ainsi, entre ces hommes, tout semblait différent. Et la forme de l'esprit et le tempérament. Mais tous étaient d'accord en ceci, qu'ils ne dépendaient d'aucun parti, que tous pensaient par eux-mêmes, et que tous avaient le respect et l'amour de la liberté, de la leur et de celle des autres. Que compte le reste? À l'époque où nous sommes, tous les cadres anciens, les partis politiques, religieux ou sociaux s'effondrent. Et c'est un mince progrès de se dire socialiste ou bien républicain plutôt que monarchiste. Si ces classes s'accommodent de nationalisme d'État ou de foi ou de classe. Il n'est plus aujourd'hui que deux sortes d'esprits, ceux qui s'enferment dans des barrières et ceux qui sont ouverts à tout ce qui est vivant. Ceux qui portent en eux l'humanité entière jusqu'à leurs ennemis. Ces hommes, si peu nombreux qu'ils soient, forment sans le savoir la vraie internationale, celle qui repose sur le culte de la vérité et de la vie universelle. Et trop faibles chacun, ils le savent, pour embrasser leur idéal les embrasse tous. Et tous unis en lui, ils s'acheminent, chacun par un chemin différent, vers le Dieu inconnu. Ce qui attirait en ce moment ces libres âmes diverses autour d'Edme Froment, c'est qu'elles percevaient obscurément en lui le point où se rencontraient leurs lignes, le carrefour d'où l'on voit tous les chemins de la forêt. Froment n'avait pas toujours été celui qui réunit. Tant qu'il était resté maître de son corps et saint, il suivait, lui aussi, sa route à part des autres. Mais depuis que sa course avait été brisée, il s'était établi, après une période d'amère désespérance, dont il ne laissa rien voir aux yeux de ceux qui l'entouraient, à la croix des chemins. L'impossibilité même où il était d'agir lui permettait d'embrasser l'ensemble de l'action et d'y participer en esprit. Il voyait les courants divers, patrie, révolution, lutte d'État ou de classe, science et foi, comme les forces mêlées d'une rivière torrentueuse, avec ses rapides, ses remous et ses ensablements. Elle semble se briser parfois, ou revenir en arrière, ou dormir, mais elle avance toujours irrésistiblement. Et la réaction même est poussée en avant. Et lui, le jeune crucifié à la croix des chemins, il épousait tous les courants, le fleuve entier. Clérambault retrouvait en lui quelques traits de Perrotin, mais des mondes séparés Froment de Perrotin. Car si, comme ce dernier, il ne niait rien de ce qui est, et s'il cherchait à tout comprendre, c'était avec une âme enflammée. Tout était dans son cœur mouvement et passion ordonnée. Tout, la vie et la mort, tout marchait et montait. Et lui-même, immobile. Cependant, l'heure était sombre. On venait de passer le tournant de l'année 17 à 18. Les nuits d'hiver brumeuses étaient lourdes de l'attente de la ruée suprême des armées allemandes. Depuis des mois, elle s'annonçait par de menaçantes rumeurs. Les raids des Gotha sur Paris, déjà, y préludaient. Les hommes de la guerre jusqu'au bout affectaient l'assurance, les journaux continuaient de hâbler, et Clémenceau n'avait jamais mieux dormi. Mais la tension des esprits se manifestait à l'âpreté croissante des haines civiles. On détournait sur les suspects de l'intérieur, les défaitistes, les pacifistes, les angoisses publiques. Les procès de trahison réchauffaient, amuser le moral de l'arrière. On voyait se multiplier les mouchards cornéliens, les dénonciateurs patriotiques, les témoins fanatiques. Et l'aboiement de l'accusateur public poursuivait furieusement durant des jours entiers les misérables bêtes traquées. Aussi, quand se leva vers la fin du mois de mars l'offensive allemande suspendue sur Paris, la haine sacrée entre concitoyens atteignit son zénith. Et nul doute que si l'invasion avait fait sa trouée, avant qu'elle eût atteint les portes de la ville, le poteau de Vincennes, cet autel de la patrie vindicative menacée, eût reçu ses victimes, innocentes ou coupables, prévenues ou jugées. Clérambault fut plusieurs fois apostrophé dans la rue. Il ne s'en émouvait pas. Peut-être ne se rendait-il pas très bien compte du danger. Moreau le trouva, un jour, en train de discuter, au milieu d'un groupe de passants, avec un jeune bourgeois à l'air rageur, qui l'avait interpellé d'une façon blessante. Tandis qu'il parlait, on entendit à proximité l'explosion d'un obus de la grosse Bertha. Clérambault ne parut pas le remarquer. Et tranquillement, il continuait d'exposer au colérique sa façon de penser. Il y avait quelque chose de comique dans cette obstination, et le cercle d'auditeurs qui, en bon français, le sentirent, échangea des colibés, pas très polis, mais dépourvus de méchanceté. Moreau prit le bras de Clérambeau pour l'entraîner. Clérambeau s'arrêta, regarda les gens qui riaient, saisit à son tour le comique de la situation et rit avec les autres. « Quel vieux fou, hein ? » dit-il à Moreau qui l'entraînait. « Il y en a d'autres, qu'ils prennent garde, » dit Moreau assez impertinemment. Mais Clérambeau ne voulait pas comprendre. L'instruction de son procès venait d'entrer dans une phase nouvelle. Clérambeau était inculpé d'infraction à la loi du 5 août 1914, réprimant les indiscrétions en temps de guerre. On l'accusait de propagande pacifiste dans les milieux ouvriers, où Touron, disait-on, répandait les écrits de Clérambeau d'accord avec l'auteur. Rien n'était moins fondé. Clérambeau n'avait connaissance d'aucune propagande de ce genre, et il ne l'avait pas autorisée. Touron en pouvait témoigner. Mais voici que, justement, Touron n'en témoignait pas. Son attitude était étrange. Au lieu d'établir les faits, il biaisait. Il avait l'air de cacher quelque chose. Il émettait même une sorte d'ostentation. Il eût voulu éveiller les soupçons qu'il ne s'y fût pas mieux pris. Le malheur était que ses soupçons dérivaient vers Clérambeau. Certes, il ne disait rien contre lui, contre quiconque, il se refusait à rien dire. Mais il laissait entendre que s'il voulait parler, il ne le voulait pas. On le confronta avec Clérambeau. Il fut parfait, vraiment chevaleresque. Il mit la main sur son cœur. Il protesta de son admiration filiale pour le maître, pour l'ami. Clérambeau, impatienté, le pressa de faire le récit exact de tout ce qui s'était passé entre eux. L'autre continuait d'attester son dévouement indéfectible. Il ne dirait rien de plus. Il n'ajouterait rien à ses dépositions. Il prenait tout sur lui. Il sortit de là grandi. Et Clérambeau suspect de se laisser abriter par le sacrifice de son Léoudé. La presse n'hésita point, elle l'accusa de lâcheté. Cependant, les convocations succédaient aux convocations. Depuis près de 2 mois, Clérambeau se rendait aux interrogatoires oiseux que le juge lui posait sans qu'aucune décision se dessinât encore. Il eût semblé qu'un homme accusé sans preuve, maintenu si longtemps sous l'injurieux soupçon, eut droit à la sympathie publique. Mais on lui en voulait, au contraire, bien plus qu'auparavant. On lui en voulait de n'être pas encore condamné. Des racontars absurdes circulaient dans la presse. On prétendait que les experts avaient découvert, à la forme de certaines lettres, à des coquilles relevées dans une plaquette de Clérambeau, qu'elle avait été imprimée par des Allemands. Ces niaiseries trouvaient accès dans la crédulité fabuleuse d'hommes qui avaient été intelligents, on l'assurait, avant la guerre. Il y avait 4 ans de cela, mais il semblait des siècles. Bref, les braves gens condamnaient un des leurs, sans plus ample informés. Ce n'était pas la première fois, ce ne serait pas la dernière. L'opinion, bien stylée, s'indignait que Clérambeau continuât de circuler en liberté. Et les journaux de la réaction, qui craignaient que la proie ne leur échappât, accusaient la justice, tâchaient de l'intimider, réclamaient que le parquet civil fût dessaisi de l'affaire et qu'elle fût portée devant la juridiction militaire. Très vite, l'excitation monta à un de ces paroxysmes qui sont, à Paris, généralement brefs, mais effrénés. Car ce peuple sensé délire périodiquement. On peut se demander comment des hommes qui, pour la plupart, ne sont point méchants et seraient naturellement portés à la tolérance mutuelle, voire à l'indifférence, peuvent en arriver à ces explosions de fanatisme colérique, où ils abdiquent à la fois leur cœur et leur bon sens. D'autres diront que ce peuple est femme par ses vertus, ainsi que par ses vices, que la finesse de ses nerfs, que sa sensibilité, qui ont toujours fait le prix de son art et de son goût, le livre, par accès, à des crises d'hystérie. Mais je pense que tout peuple n'est homme que par accident, si l'on entend par homme animal raisonnable, ce qui est bien flatteur, mais qui ne s'appuie sur rien. Les hommes n'usent de la raison que de loin en loin. Ils sont tout de suite fourbus par l'effort de pensée. On les soulage en voulant pour eux, en voulant ce qui demande le moins d'effort. Il n'en faut guère pour haïr une pensée nouvelle. Ne les condamnons point. L'ami de tous les persécutés l'a dit, avec son héroïsme indulgent, ils ne savent ce qu'ils font. Il se trouva une feuille d'action nationaliste pour attiser les instincts malfaisants qui couvent dans ces pauvres hommes. Elle vivait de l'exploitation du soupçon et de la haine. Elle appelait cela « travailler à la régénération de la France ». La France se réduisait, pour elle, à soi et à ses amis. Elle publia contre Clérambeau une suite d'articles égorgeurs, comme ceux qui avaient si bien réussi contre Jaurès. Elle ameutait l'opinion, clamant que des influences occultes s'employaient à protéger le traître et que, si l'on y veillait, on le laisserait échapper. Et elle fit appel à la justice populaire. Victor Vaucoux haïssait Clérambeau. Il ne le connaissait point. La haine n'a point besoin de connaître. Mais s'il l'avait connu, il l'eût haï encore plus. Avant de savoir que Clérambeau exista, il était son ennemi né. Il y a des races d'esprit qui sont, dans chaque pays, plus ennemies entre elles que les races de peau ou que celles d'uniforme. De la bourgeoisie aisée de l'ouest de la France, il appartenait à une famille de fonctionnaires de l'Empire et de l'ordre moral, retirés depuis 40 ans dans la hargne d'une opposition stérile. Il avait, en Charente, des propriétés où il passait l'été, le reste du temps à Paris. Une famille raréfiée, phénomène courant dans sa classe. Il retournait contre elle et contre lui les instincts de gouvernement dont il ne trouvait pas l'emploi dans la vie. Cette compression leur avait donné un caractère tyrannique. Il despotisait ses proches, sans le savoir, comme un droit et un devoir qui ne se discutent point. Le mot de tolérance n'avait pas de sens pour lui. Il ne pouvait pas se tromper. Cependant, il avait de l'intelligence, de la vigueur morale, et même un cœur, mais le tout ligoté et serré sous un épais aubier, comme un vieux tronc noueux. Ses forces, privées d'expansion, s'étaient tassées. Il n'absorbait rien du dehors. Quand il lisait, quand il voyageait, c'était avec des yeux hostiles et le désir de se retrouver chez soi. Rien n'entamait l'écorce. Toute sa vie lui venait du pied de l'arbre, de la terre, des morts. Il était le type de cette fraction de la race qui, forte mais vieillie, n'a plus assez de vie pour se répandre au dehors et se ramasse dans un sentiment de défense agressive. Elle observe avec méfiance, avec antipathie, les jeunes forces neuves qui débordent autour d'elle. Dans son peuple et hors de son peuple, les nations et les classes qui grandissent, tous les efforts passionnés, maladroits, de rénovation sociale et morale. Elle a besoin, comme ce pauvre Barrès et son héros rabougri, de murailles, de barrières, de frontières, d'ennemis. Note. Simon et moi, nous comprîmes alors notre haine des étrangers, des barbares, et notre égotisme où nous enfermons avec nous-mêmes toute notre petite famille morale. Le premier soin de celui qui veut vivre, c'est de s'entourer de hautes murailles. Mais, dans son jardin fermé, il introduit ceux que guident des façons de sentir et des intérêts analogues aux siens. Un homme libre. En trois lignes, trois fois cet homme libre exprime l'idée d'enfermer, fermer, s'entourer de murailles. Fin de la note. Dans cet état de siège, Vaucoup vécut et fit vivre les siens. Sa femme, douce, morose, effacée, avait trouvé l'unique moyen d'en sortir. Elle était morte. Resté seul avec son deuil, qu'il défendait jalousement, comme il défendait tout ce qui était à lui, possesseur d'un fils unique de 13 ans, il avait monté la garde autour de sa jeunesse et il lui avait appris à la monter avec lui. Étrange, faire des fils pour lutter contre l'avenir. Abandonné à lui-même, le jeune garçon eut, d'instinct, trouvé la vie. Mais dans la geôle du père, il fut la proie du père. Une maison fermée, peu de relations, peu de livres, peu de journaux, une seule feuille, dont les principes pétrifiés répondaient aux besoins de conservation, au sens cadavérique de Vaucoup. Sa victime, son fils, ne pouvait lui échapper. Il lui inocula ses maladies d'esprit, comme ces insectes qui injectent leurs œufs dans le corps vivant d'un autre. Et quand la guerre éclata, il le mena au bureau de recrutement et le fit engager. Pour un homme de sa sorte, la patrie était le plus pur de l'être, le saint des saints. Il n'avait pas besoin, pour en trouver l'ivresse, de l'aspirer dans l'air vibrant des suggestions de la foule. Il ne se mêlait pas à la foule. La patrie était en lui. La patrie, le passé éternel. Et son fils fut tué, comme celui de Clérambeau, comme ceux de millions de pères, pour la foi de ses pères, pour l'idéal du passé, auquel il ne croyait pas. Mais Vaucoup ne connut point les doutes de Clérambeau. Douter, il ne savait point ce que c'était que douter. S'il se le fut permis, il se fut méprisé. Cet homme dur aimait passionnément son fils, quoiqu'il ne le lui eût jamais montré. Et il ne concevait pas d'autre façon de le prouver que par une haine passionnée contre qui l'avait tué. Il ne se comptait pas au nombre des meurtriers. Les moyens de vengeance lui étaient mesurés. Rhumatisant, ankylosé d'un bras, il voulut s'engager et ne fut pas accepté. Il fallait pourtant agir. Il ne le pouvait que par la pensée. Seul, dans sa maison déserte, avec pour compagnie sa femme morte, son fils mort, il était, pendant des heures, livré à ses violentes méditations. Comme une bête en cage qui secoue ses barreaux, elle tournait furieusement dans le cercle de la guerre que barraient les tranchées, attendant pour se ruer et guettant la trouée. Les articles de Clérambeau, signalés par les hurleurs de la presse, l'exaspérèrent. Quoi ? On parlait de lui arracher des dents l'os de la haine ? Par le peu qu'il connaissait de Clérambeau, déjà, Avant la guerre, il ne pouvait le souffrir. L'écrivain lui était antipathique par ses formes d'art nouvelles, et l'homme par son amour de la vie et des hommes, par son idéalisme démocratique, son optimisme un peu benêt et ses aspirations européennes. Du premier coup d'œil, avec l'instinct du rhumatisant, d'esprit et d'articulation, Vaucoup avait classé Clérambault parmi ceux qui font des courants d'air dans la maison, aux portes et fenêtres closes, la patrie. La patrie comme il l'entendait. Pour lui, il n'en était pas d'autre. Il n'eut pas besoin des excitations des journaux pour voir dans l'auteur de « L'appel aux vivants » et du « Pardon aux morts » l'agent de l'ennemi. L'ennemi. Et sa fièvre de vengeance, qui se rongeait, se jeta sur cet aliment. Dieu, qu'il est commode de haïr sans comprendre ceux qui ne pensent pas comme vous. Clérambault n'avait plus cette ressource. Il comprenait ceux qui le détestaient. Il les comprenait parfaitement. Ces braves gens souffraient, jusqu'à la fureur, de l'injustice de l'ennemi. Sans doute parce qu'elle les atteignait, mais aussi, loyalement, parce qu'elle était l'injustice. L'injustice avec un grand I, car, comme ils étaient myopes, elle leur paraissait énorme et unique, elle bouchait le champ de leur vision. Combien illimitée, chez un homme ordinaire, la capacité de sentir et de juger. Submergé dans l'espace, il se raccroche aux premiers débris flottants. De même qu'il réduit à quelques couleurs le ruisseau de la lumière aux nuances infinies, le bien et le mal qui coulent dans les veines de l'univers ne lui sont perceptibles que s'il les embouteille dans quelques exemples choisis auprès de lui. Tout le bien, tout le mal du monde tient dès lors dans le flacon. Il projette là-dessus toute sa puissance d'amour et de répulsion. Pour des milliers d'excellentes gens, la condamnation de Dreyfus ou le torpillage du Lusitania reste le crime du siècle. Et les excellentes gens ne voient pas que le crime pave la route de la société et qu'ils marchent dessus sans qu'ils s'en doutent. Car ils bénéficient d'injustices inconnues et ils ne font rien pour les empêcher. De toutes ces injustices, quelles sont les plus affreuses? De celles qui retentissent en longs et profonds échos dans la conscience du monde, ou de celles que connaît seule la victime étouffée. Mais nos excellentes gens n'ont pas les bras assez larges pour embrasser toutes les misères. Qui trop embrasse, mal étreint. Ils n'en embrassent qu'une, mais ils l'étreignent bien. Et quand ils ont fait choix d'un crime pour le haïr, ils absorbent toute la force de haine qui est dans leurs viscères. Le chien ronge son os. Garde-toi d'y toucher. Clérambault y avait touché. S'il était mordu, il ne pouvait pas se plaindre. Il ne se plaignait pas. Les hommes ont raison de combattre l'injustice qu'ils voient. Et ce n'est pas leur faute s'ils ne voient que son gros orteil. Gulliver à Brobdignac. Chacun fait ce qu'il peut. Il mordait. C'était le Vendredi Saint. La grande marée de l'invasion montait à l'assaut de l'île de France. Le jour de deuil sacré n'avait pas suspendu le massacre. La guerre laïque ne connaît plus la trêve de Dieu. Christ venait d'être bombardé, dans une de ses églises. La nouvelle de l'explosion meurtrière de Saint-Gervais, à la tombée du jour, se répandait avec la nuit dans Paris sans lumière, qui s'enveloppait de deuil, de fureur et de peur. Les amis attristés étaient réunis chez Froment. Sans s'être donné le mot, chacun était venu, parce qu'il savait trouver les autres. Il voyait de tous côtés la violence, dans le présent, dans l'avenir, chez l'ennemi, chez les leurs, dans le camp de la réaction comme de la révolution. Ils fondaient leurs angoisses et leurs doutes en une même pensée. Et le sculpteur disait « Nos saintes convictions, notre foi dans la paix, dans la fraternité humaine, reposent en vain sur la raison et l'amour. N'y a-t-il donc aucun espoir qu'elle conquiert les hommes? Nous sommes trop faibles. » Et Clérambeau, sans y penser, récita les paroles d'Isaïe qui lui montaient à la mémoire. « Les ténèbres couvrent la terre, l'ombre enveloppe les peuples. » Il s'était arrêté, mais de son lit à peine éclairé, Froment invisible continua. « Lève-toi, car sur la cime des monts, la lumière vient. » « Elle vient, » répéta dans l'ombre la voix de Madame Froment, assise au pied du lit à côté de Clérambeau. Clérambeau lui saisit la main. Ce fut comme un frisson d'eau qui passa par la chambre. « Pourquoi dites-vous cela ? » demanda le comte de Coulanges. « Parce que je le vois. Je le vois aussi, » dit Clérambeau. Le docteur Verrier lui demanda « Qui ?» Mais avant que la réponse eût été prononcée, tous savaient déjà le mot qui allait être dit. « Celui qui porte la lumière, le Dieu qui vaincra ?»« Attendre un Dieu, » fit le vieil helléniste, « vous croyez au miracle ?»« Le miracle, c'est nous. N'est-ce pas un miracle que, dans ce monde de perpétuelle violence, nous gardions la foi perpétuelle en l'amour et l'union des hommes ?» Coulanges dit âprement, « On attend le Christ pendant des siècles. Quand il vient, on l'ignore et on le crucifie. Ensuite, il est oublié, sauf par une poignée de pauvres gueux qui sont bons et bornés. Cette poignée grossit. Pendant une vie d'homme, la foi est dans sa fleur. Après, on la dénature. Elle est trahie par le succès, les disciples ambitieux, l'Église. Et il y en a pour des siècles. Adveniat regnum tuum, où est-il le règne de Dieu ? En nous, dit Clérambeau, la chaîne de nos épreuves et de nos espérances forme le Christ éternel. Nous devrions être heureux, en pensant au privilège que nous avons reçu, d'abriter dans notre cœur, comme l'enfant dans la crèche, le Dieu nouveau. Et qui nous est le gage de sa venue ? Demanda le médecin. Notre existence, dit Clérambeau. Nos souffrances, dit Froment. Notre foi méconnue, dit le sculpteur. Le seul fait que nous sommes, reprit Clérambeau, ce paradoxe jeté à la face de la nature qui le nie. 100 fois la flamme se rallume et s'éteint avant de rester allumée. Chaque Christ, chaque Dieu s'est essayé à l'avance par une série de précurseurs. Ils sont partout, perdus, isolés dans l'espace, isolés dans les siècles. Mais ces solitaires, qui ne se connaissent pas, voient tous à l'horizon le même point lumineux, le regard du Sauveur. Il vient. Froment dit, il est venu. Quand ils se séparèrent, avec une émotion de mutuelle tendresse et presque sans parole, afin de ne point rompre le charme religieux qui les tenait, chacun se retrouva seul, dans la nuit de la rue, conservant le souvenir d'un éblouissement qu'il ne pouvait plus comprendre. Le rideau était retombé, mais ils n'oublièrent plus qu'ils l'avaient vu se lever. Thank you. quelques jours après, Clérambeau, qui s'était rendu à la convocation du juge instructeur, rentra à sa maison, tout maculé de boue. Son chapeau, qu'il tenait à la main, était une loque. Il avait les cheveux trempés par la pluie. En le voyant, la domestique poussa une exclamation. Il lui fit signe de se taire et se dirigea vers sa chambre. Rosine était absente, et les deux époux, restés seuls dans l'appartement vide, ne se voyaient plus qu'au repas, où ils se parlaient le moins possible. Mais, au cri de la domestique, Madame Clérambeau pressentit un malheur nouveau. Et les explications de la servante confirmant ses craintes, elle entra dans la chambre de Clérambeau et s'exclama à son tour. « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait encore ?» Clérambeau, honteux, souriait timidement, s'excusait. « J'ai glissé. » Il tâchait de dissimuler les traces du délit. « Tu as glissé. Tourne-toi. Comme tu t'es arrangé. » « Mon Dieu, on ne peut donc plus avoir un instant de tranquillité avec toi. Tu ne regardes pas à tes pieds, tu as de la boue jusqu'aux yeux. Et là, là, sur la joue. »« Oui, je crois que je me suis heurté. » »« Oh, qu'on est malheureux. Tu crois que tu t'es heurté? Tu as glissé? Tu es tombé. » Elle le regarda en face. « Ce n'est pas vrai. » »« Je t'assure. » »« Ce n'est pas vrai. Dis-moi la vérité. On t'a frappé ?» Il ne répondit pas. « Ils t'ont frappé. Ah, les sauvages, mon pauvre homme, ils t'ont frappé. Toi, si bon, toi qui dans toute ta vie n'as fait de mal à personne. Ah, oh, c'est trop de méchanceté. » Elle l'embrassa en sanglotant. « Ma bonne femme, disait-il très ému, ça n'en vaut pas la peine. Et puis, je te salis, il ne faut pas me toucher. Ça ne fait rien, disait-elle, j'en ai trop sur le cœur. « Pardon. »« Pardon de quoi? Qu'est-ce que tu dis donc là ?»« Moi aussi, j'ai été mauvaise pour toi. Je ne t'ai pas compris. Je ne te comprendrai jamais. Mais je sais bien que quoi que tu fasses, tu ne veux rien que le bien. Et j'aurais dû te défendre, et je ne l'ai pas fait. Je t'en voulais de ta sottise. C'est moi qui suis une sotte. Je t'en voulais de nous mettre mal avec tous. Mais maintenant, non, c'est trop injuste. » Des hommes qui ne seraient pas dignes de dénouer les lacets de tes chaussures. Ils t'ont frappé. Laisse-moi, que j'embrasse ta pauvre figure abîmée. » C'était bon de se retrouver après s'être perdue. Quand elle eut bien pleuré au cou de Clérambeau, elle l'aida à se rhabiller. Elle lui baigna la joue avec de l'arnica. Elle emporta ses vêtements pour les brosser. À table, elle le couvait de ses yeux fidèles et inquiets. Et lui s'efforçait de la distraire de ses craintes en causant de vieilles choses familières. D'être tous deux seuls ce soir et sans enfants les reportait aux anciennes années, au premier temps du mariage. Cette commémoration secrète avait une douceur mélancolique et apaisée, comme l'angélus du soir répand dans l'ombre qui vient un dernier rayonnement, attiédi, de l'angélus de midi. Vers 10 heures, on sonna. C'était Julien Moreau, avec son camarade Gillot. Ils avaient lu les journaux du soir qui racontaient l'incident, à leur manière. Les uns parlaient d'une correction exemplaire, infligée par le mépris public, et ils rendaient hommage à l'indignation spontanée de la foule. Les autres, les journaux braves, voulaient bien déplorer, en principe, la justice populaire qui s'exerce sur la voie publique. Mais ils en rejetaient la responsabilité sur la faiblesse du pouvoir, qui hésitait à faire la lumière tout entière. Il n'était pas impossible que leur blâme du gouvernement fût inspiré par le gouvernement. Les politiciens avisés savent, à l'occasion, se faire forcer la main pour accomplir ce qu'ils veulent, mais dont ils ne sont pas fiers. L'arrestation de Clérambeau semblait donc imminente. Moreau et son ami se montraient inquiets. Clérambeau leur fit signe de se taire en présence de sa femme. Et après avoir causé quelque temps de l'événement du jour, sur un ton de plaisanterie, il les emmena dans son cabinet. Il leur demanda ce qui les troublait. Ils lui montrèrent un article haineux de la Feuille nationaliste qui, depuis des semaines, s'acharnait contre Clérambeau. Mis en goût par la manifestation du soir, elle convoquait ses amis pour la renouveler le lendemain. Moreau et Gillot prévoyaient des scènes de violence quand Clérambeau se rendrait au palais, et ils venaient l'engager à ne pas sortir de chez lui. Connaissant son caractère timide, il pensait n'avoir pas besoin d'insister. Mais pas plus que le jour où Moreau l'avait trouvé discutant au milieu d'un attroupement, Clérambeau n'avait l'air d'entendre. « Ne pas sortir? Pourquoi donc? Je ne suis pas souffrant. Ce serait plus prudent. Ça me fera du bien, au contraire. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne le sait jamais. Il est assez temps lorsque c'est arrivé. Enfin, pour parler franc, il y a du danger. Depuis trop longtemps, on les excite. Vous êtes haïs. Votre nom suffit à faire sortir les yeux de la tête à quelques-uns de ces imbéciles qui ne vous connaissent que par leurs journaux. Et ceux qui les mènent cherchent un éclat. Par la maladresse même de vos ennemis, votre parole a eu plus de retentissement qu'ils ne pensaient. Ils craignent que ces idées ne se propagent et ils veulent faire un exemple qui effraie ceux qui vous suivent. « Eh bien, mais, dit Clérambeau, si vraiment il en est qui me suivent, ce que je ne savais pas, ce n'est pas le moment de me dérober. Et puisqu'on veut faire de moi un exemple, je ne peux pas refuser. » Il semblait si bonhomme qu'ils se demandèrent s'il avait compris. « Je vous dis que vous risquez gros, insista Gillot. « Eh, mon ami, répliqua Clérambeau, aujourd'hui tout le monde risque. Il faut au moins que ce soit utile. Pourquoi faire leur jeu et aller se jeter dans la gueule du loup ?»« Eh bien, je crois au contraire que cela peut nous être très bon, dit Clérambeau, et que, quoi qu'il arrive, c'est le loup qui sera volé. Je vais vous expliquer. Ils répandent nos idées. La violence consacre la cause qu'elle persécute. Ils veulent effrayer. Ils effraieront les leurs, les hésitants, les timorés. Laissons-les être injustes, ce sera à leurs dépens. » Il paraissait oublier que ce serait aussi au sien. Ils virent qu'il était décidé. Et, leur respect croissant avec leur inquiétude, ils déclarèrent « En ce cas, nous viendrons avec nos amis pour vous accompagner. » « Non, non, quelle idée! Vous voulez me rendre ridicule ? Et d'abord, je suis sûr qu'il ne se passera rien du tout. » Leurs insistances furent inutiles. « Vous ne m'empêcherez toujours pas de venir, moi, » dit Moreau. « Je suis aussi entêté que vous. Vous n'y couperez pas. Plutôt que de vous manquer, je passerai la nuit, assis sur le banc en face de votre porte. » « Allez vous coucher dans votre lit, mon cher ami, » dit Clérambeau, « et dormez tranquillement. Vous viendrez demain, puisque vous le voulez. » « Mais vous perdez votre temps. Il n'arrivera rien. Embrassez-moi tout de même. » Ils l'embrassèrent affectueusement. « Voyez-vous, dit Gillot sur le pas de la porte, on a charge de vous. On est un peu votre fils. »« C'est vrai, dit Clérambeau avec un bon sourire. » Il pensait à son fils. Et, refermant la porte, il fut quelques minutes avant de s'apercevoir qu'il rêvait debout, la lampe à la main, immobile, dans l'antichambre où il venait de reconduire ses jeunes amis. Il était près de minuit et Clérambeau était là. Cependant, au lieu de rentrer dans la chambre conjugale, il retourna machinalement dans son cabinet. L'appartement, la maison, la rue étaient endormis. Il s'assit et retomba dans son immobilité. Il regardait devant lui, vaguement, sans la voir, le reflet de la lumière sur le cadre vitré d'une gravure de Rembrandt, la résurrection de Lazare, clouée à l'un des montants de sa bibliothèque. Il souriait à une chère figure. Elle venait d'entrer sans bruit. Elle était là. « Cette fois, tu es content ? pensait-il, c'est bien ce que tu voulais ? Et Maxime disait, oui. Il ajoutait avec malice, ce n'a pas été sans peine que je t'ai formé, papa. Oui, disait Clérambeau, nous avions bien des choses à apprendre de nos fils. Ils se regardaient en silence et ils se souriaient.